me rappelle que cette semaine-ci, qui est la dernière semaine des cours, et qui fait que pas mal passent leur examen cette semaine-ci, je ne ferai cours donc que le cours de métaphysique aujourd'hui, demain également, pas de cours de logique ce soir, puisque les propédeutes sont tous tombés à l'examen, donc c'est pas la peine de faire, pas la peine de faire des cours. Donc demain non plus, pas de cours de critique, ni cours de l'histoire de la philosophie grecque. Je ferai un cours jeudi à 9h, le cours de théologie naturelle, et vendredi, puisque c'est le dernier jour, il faut maintenir, vendredi à 10h, le dernier cours sur la contemplation de Platon. Du moins la contemplation telle que Platon la présente. Parce que la contemplation de Platon, je ne sais pas ce qu'elle a été. Alors, nous allons, ces deux derniers cours, les consacrer au terme de ce que représente la recherche de la métaphysique scientifique, c'est-à-dire, après l'analyse de ce qui est, du point de vue de l'être, la saisie des deux principes, la substance, l'ousia, et l'acte, et la précision sur le point de vue de la propriété, l'un, et le multiple, nous avons essayé de comprendre comment le pos, le comment de l'étant, de ce qui est, que nous pouvons expérimenter. La réalité la plus parfaite que nous expérimentons, c'est l'homme. Et toute la philosophie est ordonnée vers l'homme. Et on peut dire que quand on atteint, au point de vue philosophie première, ce qu'est la personne humaine, tout ce qui a été dit précédemment est d'une certaine manière assumé. Puisque s'il n'y a pas un ordre aussi net que dans la démarche mathématique en philosophie, puisque nous sommes dans une connaissance analogique et donc qui laisse une très grande souplesse, il y a cependant un certain ordre à partir des diverses expériences que nous pouvons avoir. Et la philosophie première représente le dernier effort de l'intelligence, du nous, le dernier effort pour saisir la réalité existante, pour saisir ce qu'est l'homme. Et la métaphysique est faite pour saisir dans l'homme son esprit, c'est-à-dire cette dimension particulière que seule la philosophie première saisit parfaitement. On découvre déjà l'esprit au niveau de la philosophie du vivant, au niveau du De Anima. On découvre déjà ce que c'est que l'esprit, mais on le découvre au niveau vital, c'est-à-dire dans les opérations immanentes de ce que c'est que le nous, de ce que c'est que la volonté, la boulesis. Ce n'est qu'avec la métaphysique qu'on découvre vraiment le dépassement de l'esprit. C'est, je crois, ça important. On le découvre déjà, si vous voulez, en éthique, avec le problème de l'amour d'amitié. C'est sûr que le problème de l'amour d'amitié nous montre déjà le premier dépassement de l'homme dans cet amour d'amitié. Je vous ai dit au début de l'année, éthique et philosophie première doivent toujours se développer parallèlement. On ne peut pas les isoler. C'est absolument impossible. Mais il y a quand même un ordre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'éthique a besoin de la métaphysique pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses exigences. La métaphysique n'a pas besoin de l'éthique au sens absolu, mais quand même du côté des dispositions, nous en avons besoin. Nous avons besoin normalement de l'éthique pour mieux comprendre ce que représente le développement du nous dans toute sa pureté. Il y a des implications. C'est un problème difficile, c'est un problème intéressant, du reste, une fois en critique, à bien voir les relations entre l'éthique et la philosophie première. Parce que c'est pas un problème de fait qu'Aristote a beaucoup traité, il a plus regardé l'éthique et la politique. Mais je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, ce serait important de pousser plus et de voir les implications de l'éthique et de la philosophie première. Voir comment les deux se tiennent. Au terme de toute l'analyse philosophique, je dis bien au terme de toute l'analyse philosophique, c'est le problème de l'esprit dans l'être humain, dans la nature humaine, et donc c'est le problème de la personne. Et c'est pour ça que toute la métaphysique, dans sa partie scientifique, s'achève dans le problème de la personne. Comment, de fait, se réalise cet être, cet existant, qui est l'homme, qui implique connaissance et amour. Bon, nous l'avons essayé de le préciser déjà en essayant de comprendre comment, dans la perspective d'une philosophie première, nous pouvions donner un fondement à ce que la psychologie disait sur le problème du moi personnel, sentiment du moi, les trois grandes orientations du sentiment du moi. Je crois qu'ils sont importantes à bien saisir et qui se construisent toujours en parallèle avec les fêlures de notre moi personnel, c'est-à-dire tout ce qui vient diminuer le sentiment du moi fort et qui vient l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ses exigences. Nous voyons comment, au point de vue métaphysique, nous pouvons donner un fondement à ce que la psychologie dit, parce que la psychologie ne peut pas atteindre le fondement. Elle ne peut pas atteindre le fondement parce qu'elle ne peut pas atteindre l'ousia, elle ne peut pas atteindre la substance. Donc elle n'atteint pas ce que c'est que la véritable autonomie. Et l'autonomie dans l'ordre de l'être, je l'atteins par l'ousia. C'est l'ousia qui me permet de comprendre cette autonomie dans l'ordre de l'être. Et la psychologie ne peut pas aller jusqu'au bout de ce que représente la structure du moi personnel parce qu'elle n'atteint pas la finalité. La finalité est atteinte pleinement par le point de vue de l'esprit. Et je crois que c'est les deux apports que donne la philosophie première à la psychologie. Son fondement, son enracinement dans l'ordre de l'être. La psychologie demeure toujours dans le conditionnement humain. Et vous savez bien, quand on est plongé dans la psychologie, comme on a de la peine à sortir de ce conditionnement humain. Il faut quelques chocs très profonds pour qu'on puisse en sortir. Alors à ce moment-là, il y a des chocs qui vraiment sont apocalyptiques. Et alors comprennent que c'est vrai, la psychologie ne tient pas devant les situations limites de l'homme. Et le psychologue ne peut pas répondre à ces situations limites. Subitement, il s'aperçoit de l'effondrement de son système. Il s'aperçoit qu'il n'y a plus moyen de relever. La situation limite est constamment la possibilité pour le métaphysicien de redonner le sens de la métaphysique en montrant que le conditionnement humain de fait ne peut pas être l'absolu. Le conditionnement humain n'existe pas comme conditionnement humain. Vous voyez, si j'étais tout à fait rigoureux au point de vue philosophique, je dirais que le conditionnement humain n'est qu'une apparence, comme conditionnement. Il existe par quelque chose qui n'est plus le conditionnement. Il existe par un point de vue philosophie et de philosophie première qui fait qu'on dépasse le conditionnement pour regarder ce qui est. Ce qui est n'est pas le conditionnement. Le conditionnement est dans l'ordre du devenir. Alors vous voyez, c'est difficile pour nous parce que nous sommes post-hégéliens. Et comme nous sommes post-hégéliens, nous avons beaucoup de peine à redécouvrir la distinction de l'être et du devenir. Nous avons beaucoup de peine à comprendre le primat de l'être sur le devenir, parce que nous avons tous une pensée un peu dialectique. Et dans la pensée dialectique, les deux sont liés. Il y a là des grosses confusions qui font que c'est très très difficile d'arriver à découvrir le dépassement du psychologique pour redécouvrir le fondement métaphysique de l'autonomie de la personne humaine. Il est bien évident qu'une personne humaine n'est une personne qu'en fonction de son autonomie dans l'ordre de l'être. Donc le problème de l'âme spirituelle Et c'est le problème de la substance. Mais comme nous sommes au niveau du pos, je peux dire tout de suite que c'est le problème de l'âme spirituelle. Parce que ma substance, de fait, c'est mon âme spirituelle. Si je ne découvre pas que ma substance, c'est mon âme spirituelle, je ne découvre jamais le pos vraiment de ma personne humaine. Au niveau du comment, ma substance, c'est mon âme spirituelle. Et mon âme spirituelle a ceci de particulier, c'est qu'elle a justement ce fait qu'elle peut subsister par elle-même. De fait, elle subsiste dans le corps. Et donc le problème de l'autonomie est lié au problème de l'individu. Il n'y a pas d'autonomie en soi. Il y a une autonomie concrète. Vous voyez, le problème de l'écastome, au point de vue philosophique, ce que chacun est. Il est dans sa propre autonomie. Et il existe dans sa propre autonomie. Donc là, nous sommes en face du problème de l'autonomie individuelle de chacun d'entre nous. Quand je dis « je suis », faites votre expérience, vous pouvez très bien dire « je suis » humblement. Dire « je suis », « j'existe ». Tu existes à côté de moi, mais moi j'existe. Et tu ne me supprimes absolument rien, mon existence, du fait même que tu existes. Mais dire « je suis » affirme notre autonomie dans l'ordre de l'être. Et cette autonomie est une autonomie substantielle de notre âme spirituelle. Vous voyez, il y a quelque chose de juste dans ce que dit Descartes, la substance pensante. C'est vrai, la substance pensante, c'est la substance spirituelle. Mais vous voyez, ça ne va pas assez loin. Il reste encore trop dans le point de vue du conditionnement humain. Je ne dis pas la substance pensante, je dis l'âme spirituelle. Et en disant l'âme spirituelle, je montre ce qui est radical par rapport aux opérations. La substance ne se définit pas par ses opérations. Elle est antérieure aux opérations, parce qu'elle est principe dans l'ordre de l'être. Et l'âme spirituelle est principe dans l'ordre de l'être. C'est là où vous saisissez ce qu'est cette autonomie fondamentale. Grâce à la connaissance et à l'amour dont l'esprit est capable, je découvre les finalités profondes de la personne humaine. Seule la personne humaine a la possibilité de découvrir sa fin et de l'aimer librement. Elle découvre ce velle fondamental, ce vouloir fondamental vis-à-vis d'un bien qui est un bien personnel. Un bien qui est le bien de l'esprit et qui est un bien personnel. Et là, cette découverte nous fait comprendre comment la personne humaine est finalisée comme personne humaine. Métaphysiquement parlant, si elle n'est pas finalisée, elle n'est pas une personne au sens parfait. Alors, je ne dis pas que c'est l'opération qui structure la personne humaine, mais comme la personne humaine est au niveau du pos, exactement comme la substance implique l'âme et l'âme individualisée, quand il s'agit du pos, de même, le point de vue de l'acte, c'est le mon bien que j'atteins. Or, je n'atteins mon bien qu'en l'aimant. Et c'est en atteignant mon bien que je me finalise. Et donc, il est impliqué dans la dimension même de la personne humaine le problème de la finalité. Je ne peux pas dire que la finalité est extrinsèque à la personne au niveau métaphysique. C'est très important, ça, parce que, vous voyez, on a beaucoup trop, dans une certaine perspective ontologique, regardé uniquement le problème de la subsistance, en disant que la personne, c'est la subsistance. C'est très vrai que la personne, c'est la subsistance. C'est premièrement la subsistance. Mais c'est en second lieu. Alors il faudrait se demander si c'est le katoto second mode d'Aristote ou le katoto premier mode d'Aristote. Bon. Le point de vue de la subsistance, c'est le troisième mode du katoto, vous savez bien. Et le problème de la finalité, c'est le quatrième, qui implique le second et le premier. C'est très curieux, du reste. Mais je crois que nous sommes, si nous voulons préciser, hein, Nous devons dire que le quatrième katoto, qui est le problème de la finalité, la personne comme personne est finalisée. Oui, c'est comme l'architecte qui, comme architecte, construit. C'est la finalité de l'architecte. L'architecte n'est parfaitement architecte que s'il construit. C'est pour ça que quand vous faites une commande à un architecte, vous le finalisez. Et donc il doit vous saluer, vous remercier. Parce que vous lui donnez une fin. Enfin, on finalise, on lui permet d'exercer sa fin. Et bien, c'est la même chose au point de vue du bien. La personne n'est parfaitement personne que quand elle aime son bien. Oui, c'est le quatrième katoto. Donc c'est du nécessaire et ça fait partie du problème de la personne humaine. J'insiste pour que vous essayiez de comprendre combien le problème de l'acte est essentiel à ma saisie de l'être. Ce n'est pas quelque chose d'un surêtre. C'est l'être qui implique la fin. C'est l'être qui implique l'acte. Et le pos de ce qui est, quand ce qui est justement la réalité la plus parfaite et que c'est la personne humaine, ça implique donc nécessairement le point de vue du bien. Il faut que la personne humaine soit finalisée pour être une véritable personne humaine. Et c'est là où vous voyez combien la personne humaine est tellement souvent amputée. Et comment l'aspect de la philosophie première et de la métaphysique, quand elle n'atteint pas le problème de la finalité et le problème de l'être en acte, alors demeure une métaphysique qui n'est plus une véritable métaphysique. Il faut aller jusque-là pour comprendre la signification profonde de la personne humaine. Le problème de l'amour, la personne humaine qui s'oriente vers son bien, qui est sa fin, et qui s'y oriente par le problème de l'amour d'amitié. Mais c'est l'amour que regarde le point de vue de la métaphysique, puisque l'amour d'amitié, c'est cet amour pleinement vécu et pleinement réalisé. L'amour n'est parfaitement amour que dans l'amour d'amitié, au niveau spirituel. Ça aussi, c'est très important de le comprendre. Pas dire, ah, c'est quelque chose de secondaire. Pas du tout. C'est absolument nécessaire à l'amour. C'est nécessaire à l'amour pour que l'amour soit parfaitement un amour spirituel. À la différence d'un désir. Un désir ne finalise pas pleinement. C'est une finalisation imparfaite. Alors, c'est déjà quelque chose. C'est mieux que rien. Mais ce n'est pas suffisant. C'est l'amour d'amitié qui seul permet la vraie finalisation de la personne humaine. C'est la personne humaine est finalisée par là. Par là, nous comprenons ce qui permet la valorisation d'une manière philosophique. Une personne n'est valable, le problème de la valeur, hein, c'est très très difficile à bien intégrer au point de vue philosophique. Eh bien, je crois que le problème de la valeur ne peut se comprendre que dans la lumière de la fin. C'est par le point de vue de la fin que vous pouvez comprendre ce que c'est que la valeur. Parce que le problème de la valeur, il faut voir comment ça s'est posé au point de vue philosophique. Ça s'est posé dans des philosophies idéalistes qui ne voyaient plus la fin, alors qu'ils ont essayé de récupérer la fin par la cause exemplaire. Il faut dépasser ce point de vue-là et redonner à la valeur, à la valorisation de la personne humaine, toute sa signification. Et la valeur humaine ne se comprend parfaitement que par le problème de la finalité. Vous voyez enfin comment l'intelligence humaine est faite pour la recherche de la vérité. Et alors la personne humaine faite pour la vérité montre le fondement de la sécurité au niveau psychologique. C'est la vérité qui libère. Le problème de la théologie de la libération. Si on le reprenait fondamentalement dans une perspective métaphysique, on verrait que c'est la vérité qui libère et qu'il n'y a pas de théologie de la libération sans le problème de la vérité. Il faut d'abord savoir ce que c'est que l'homme pour savoir comment il peut se libérer. Et alors au point de vue théologique, d'avoir ce que c'est que la foi. Donc si on ne sait pas ce que c'est que l'homme et la foi, on ne peut pas parler de la théologie de la libération. On en parle sociologiquement, politiquement, mais pas vraiment. Alors il faut le comprendre. Il faut comprendre que, de fait, métaphysiquement, la recherche de la vérité donne la sécurité. et que toute libération sécurise. Parce que la libération pour la libération, si on n'est pas sécurisé, ça ne sert à rien du tout. Donc il s'agit de comprendre ce problème-là, qui est difficile. Et alors enfin, le problème de l'opération vitale et du mouvement nous montre comment, au point de vue profond, la personne humaine se construit toujours. On me pose cette question, avant que j'aille un peu plus loin, dans quelle mesure peut-on parler de contemplation au niveau purement philosophique ? Quel est le contenu de la contemplation du Créateur ? Acte pur, premier moteur. N'est-ce pas le moment où l'intelligence touche sa limitation dernière et relayée par l'amour ? Subsiste-t-il alors une contemplation naturelle en dehors d'une contemplation religieuse ? Toute contemplation naturel présuppose un aspect religieux. Alors, je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Nous reprendrons peut-être ça vendredi, mais comme c'est le cours de Platon, il faut quand même essayer de le regarder ici, parce que vendredi, je verrai Platon, et Platon n'est pas tout à fait juste, sauf quand on le regarde à travers le Perfestugiaire, alors il est dans la vérité. Mais autrement, si vous regardez Platon pour lui-même, vous voyez que ce n'est pas tout à fait juste. Mais c'est intéressant, c'est quand même quelqu'un qui a parlé de la contemplation d'une manière étonnante. Alors, il faut comprendre que la contemplation philosophique au sens fort, comme dit Aristote, c'est la béatitude aplos, protos, c'est la béatitude première, principale de l'homme. C'est intéressant de voir ça chez Aristote, parce que bon, si je le disais, on dirait, mais c'est parce que vous êtes chrétien, c'est parce que vous êtes religieux. Non. Aristote était marié, il aimait son épouse, et Aristote a dit ça. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dit, ça je suis tout à fait d'accord, mais c'est ça ne veut rien dire du tout. Hein. Suffrage universel au point de vue de la contemplation, battu chaque fois. Alors, donc, c'est pas la peine. Alors, si c'est ça le point de vue, c'est pas comme ça qu'on doit regarder au point de vue philosophique. On doit essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la finalité de l'homme et le bonheur de l'homme. Où se situe le bonheur de l'homme ? Bon, le bonheur de l'homme se situe dans sa finalité. Donc, le philosophe, ayant découvert l'existence de Dieu, ayant découvert le lien qui existe entre son esprit, son âme spirituelle et le Dieu créateur, peut préciser qu'il est directement en dépendance du Dieu créateur. Et donc sa finalité ne peut être que de retourner à sa source. Je crois que ça c'est facile à comprendre. C'est pas commode à vivre, mais c'est facile à comprendre. C'est déjà beaucoup. De comprendre que l'âme spirituelle, et voyez bien le métaxu, hein, c'est important de le voir, l'âme spirituelle ne peut être que directement créée par Dieu, que par le Créateur. Et si elle est immédiatement créée par le Créateur, ça, le bonheur plénier de l'homme ne peut être que dans le retour à sa source. Autrement, il ne peut pas être parfaitement heureux. Alors, dans quelle mesure peut-il retourner à sa source ? Il retourne à sa source de deux manières, par l'adoration, par la contemplation. Et c'est pour ça que je ne peux pas séparer les deux. Et ceci, c'est très important à souligner. L'adoration me fait comprendre la limite dans mon être et me fait comprendre l'attitude affective. Il faudrait faire un traité philosophique sur l'adoration. C'est très important dans notre monde d'aujourd'hui. Un traité philosophique sur l'adoration. Un petit traité philosophique sur l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration au niveau proprement philosophie première, au niveau théologie naturelle ? Puisque la philosophie première aboutit à la théologie naturelle, qu'est-ce que c'est que l'adoration ? Quelle est dans le cœur de l'homme, dans le velé de l'homme, dans la volonté de l'homme, ce que représente ce retour premier vers sa source. C'est un retour de bonne volonté. Paix aux âmes de bonne volonté. C'est là où il faut le situer. C'est C'est un retour de bonne volonté. C'est-à-dire, c'est un retour où, comprenant que tout a été donné gratuitement, ça le philosophe peut le dire, il faut retourner gratuitement. Et l'adoration, c'est un acte gratuit. Ça ne sert à rien. Donc c'est en dehors de l'économie d'efficacité. Ça ne sert à rien, puisque c'est quelque chose de purement gratuit. C'est me mettre dans l'attitude de disposition d'être attiré par celui qui est de fait source de mon être, de mon esprit, donc de ma volonté et de mon intelligence. C'est celui qui est source première de mon premier acte d'amour et de mon premier acte d'intelligence. Ce fameux petit principe d'Aristote qui est très très beau, que l'engendrant est pour le vivant, est source du premier acte du vivant. Il communique la vie et la vie implique l'âme et l'opération. Et donc, si Dieu est auteur de mon âme spirituelle, il est celui, et ça je peux le dire dans la lumière de la création, il est celui qui est source de ce premier acte de Vellé. Et je reprends une nouvelle lumière à partir du Vellé, de ce vouloir humain, ce vouloir fondamental. Et ce vouloir fondamental se concrétise dans l'adoration. Quand vous adorez, vous répondez à la volonté première du Créateur. Vous répondez à la volonté première du Créateur sur vous. Et vous y répondez gratuitement par rapport à un amour gratuit. Cet acte premier de volonté humaine. Alors évidemment, cherchez le nombre de philosophes qui ont dit ça. Ce serait vite fait comme topic historique. Très vite fait. Mais ce n'est pas parce que de fait, on l'a très peu dit, il faut revenir à l'Antiquité. Il faut venir à ce qu'on appelle les païens qui sont moins païens que nous. Parce qu'au fond, c'est vrai. Il faut revenir à l'Antiquité qui reconnaît qu'il y a une adoration, regardez les stoïciens, il y a une adoration à l'égard du Créateur. Et que cette adoration, c'est l'acte libre par excellence. C'est un acte intérieur et libre par excellence. Je reconnais cette dépendance radicale à l'égard de Dieu, à l'égard du Créateur. Et je m'offre moi-même. Et donc c'est un acte d'amour. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, c'est par l'adoration que l'amour s'introduit dans la contemplation. Parce que c'est toujours le même problème. Vous savez, il y a trois moments très importants à saisir. Nous savons à quel moment naît la philosophie première. Par l'interrogation sur l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je crois qu'à ce moment-là, l'amour intervient sous forme de l'admiration. Admiration, étonnement. L'admiration et l'étonnement, c'est une attitude affective. Donc, l'affectivité est nécessaire à la philosophie première. Par l'interrogation. Si vous n'interrogez pas, vous n'entrerez jamais dans la philosophie première. Si vous n'avez pas un minimum d'admiration et d'affectivité, vous n'entrerez pas dans la philosophie première. C'est pour ça que le rationalisme tue la philosophie première. Et quand les rationalistes tuent la philosophie première, il faut leur dire, vous manquez de cœur, vous manquez de volonté, vous manquez d'amour. Et c'est pour ça que vous tuez la philosophie première. Parce que la philosophie première vous réveille vers quelque chose qui vous dépasse. Or, on n'aime pas d'être dépassé quand on est rationaliste. Or, de fait, la découverte de l'être, c'est le premier dépassement. Et ce premier dépassement se fait par l'admiration, l'attitude affective. Deuxième moment, au point de vue philosophie première, quand j'ai découvert la personne humaine, après toute l'analyse, où l'admiration demeure toujours. Pendant tout le développement de la philosophie première, il y a toujours l'interrogation. Autrement, vous vous arrêtez, c'est tellement difficile. C'est ce que vous oubliez à chaque cours de métaphysique, c'est de vous remettre dans un état d'admiration. Si vous remettiez dans un état d'admiration, vous comprendriez tout. Parce que vous seriez justement dans cette attitude d'affectivité qui vous permettrait d'être intelligent. On est intelligent quand on aime, pour ce qu'on cherche. Deuxième moment, quand la personne humaine se pose la question, est-il, y a-t-il une réalité qui est au-delà de la personne humaine ? Là aussi, il y a une interrogation, une nouvelle interrogation. Et il faut à ce moment-là un grand amour, il faut à ce moment-là un grand amour de la vérité pour découvrir, après cette interrogation, découvrir l'être premier. S'il n'y a pas ce grand amour de la vérité, je n'arriverai pas à ce dépassement. Puis troisième moment, oui, c'est pour voir quand l'amour intervient dans le développement philosophique. Une question très importante. Puis troisième moment, donc 1, 2, 3. Au moment de l'adoration. Vers la contemplation. Alors, l'amour intervient au moment de l'adoration, puisqu'il s'agit, là, l'amour est intégré. Jusque-là, il est un peu à la porte. Vous voyez ? On ne peut pas dire qu'il est directement dedans. Quoique, c'est un problème très très difficile de savoir jusqu'où, quand il s'agit des voies d'accès vis-à-vis de la découverte de l'être premier, si l'amour n'est pas déjà intégré. Ça, c'est un problème très difficile. Mais ici, sûrement, quand il s'agit de la contemplation, il est intégré par l'adoration. Cet acte d'adoration est un acte d'amour vis-à-vis du Créateur. C'est un acte d'amour de celui qui reconnaît sa dépendance. Donc il reconnaît sa limite radicale dans l'ordre de l'être. Alors l'intelligence reconnaissant sa limite radicale dans l'ordre de l'être comprend que la vérité consiste à se mettre le plus proche possible dans une attitude affective, puisque l'attitude affective a cette possibilité de dépasser le point de vue de l'intelligence vis-à-vis du Créateur, en l'adorant. Et dans l'adoration, il y a cette attitude d'attente. De nouveau, on remet l'intelligence au service de l'amour pour passer de l'adoration à la contemplation. Le passage de l'adoration à la contemplation, c'est cette confiance que j'ai d'intelligence. Je suis créé par Dieu dans mon être et dans ma volonté. Et dans mon intelligence. Vous voyez comment progressivement je vois la dépendance à l'égard de Dieu. Je suis créé par Dieu dans mon être. Je le découvre en découvrant le point de vue de la création. Dans ma volonté, l'adoration. Dans mon intelligence, la contemplation. Alors là, je crois qu'il y a les trois touchés que je vois successivement, mais qui sont simultanés. Du Créateur par rapport à mon âme spirituelle. Mon âme spirituelle, en tant qu'elle est principe d'être comme substance, est créée. Je reconnais cette dépendance. Et je reconnais cette dépendance dans l'amour, l'adoration. Et je reconnais cette dépendance dans l'intelligence, la contemplation. Vous voyez, il faudrait peut-être ici comprendre un peu, c'est très curieux, parce que vous réintégreriez d'une manière très positive ce que Descartes. Il y a toujours une part de vérité. Quand Descartes veut découvrir Dieu comme garant de la vérité, qu'est-ce que ça veut dire ? Au fond, Descartes voit la faiblesse de l'intelligence humaine, voit comment l'intelligence humaine peut si facilement se tromper. Il y a toujours la possibilité de se tromper. Il ne faut pas l'oublier, à partir d'Occam, les théologiens eux-mêmes, n'est-ce pas, sont en face de cette espèce de tremblement de doute, le protervus, hein, comme les théologiens vont inventer. Il y a toujours, nous, un petit diable qui est là, hein, et qui fait qu'on peut douter même métaphysiquement. On a vu, puis le lendemain, on ne voit pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un brouillard matinal. Alors, on ne voit rien du tout. Il y a l'humidité de l'affectivité qui fait qu'on ne voit rien du tout. Alors il y a le protervus, c'est-à-dire qu'il y a toujours la petite tentation de dire « Mais non, tout ça c'est faux, tout ça c'est faux. » Alors, on comprend très bien que découvrir l'existence de l'être premier redonne confiance à mon intelligence humaine. Redonne confiance. Mon intelligence humaine provient directement de Dieu. Donc si mon intelligence humaine provient directement de Dieu, il y a donc dans mon intelligence quelque chose qui fondamentalement est vrai. Vous voyez ? Ce serait la réponse à Luther du reste. Vous voyez ? Fondamentalement, il y a quelque chose qui reste vrai et qui ne peut pas être faussée, parce que ça vient de Dieu. Et donc, si fondamentalement mon intelligence est faite pour la vérité, la garantie, c'est bien Dieu créateur. Si Dieu est créateur actuellement de mon intelligence ne peut pas être radicalement mauvaise. Ce serait fou, ce serait enlever mon intelligence de la dépendance directe de Dieu. Et donc, ce serait frustrer le créateur de sa dépendance radicale à l'égard de mon être, de mon cœur et de mon intelligence. Vous voyez comme c'est important de voir ça. C'est important de saisir que, de fait, voyant la dépendance à l'égard de Dieu, je vois que cette dépendance n'est pas seulement une dépendance dans l'ordre de l'être, elle est une dépendance dans l'ordre de la volonté, une dépendance dans l'ordre de l'être, de l'intelligence. Et donc, il y a un premier acte qui demeure fondamental du côté volontaire, qui est l'adoration. Il y a un premier acte qui est un acte ultime, parce que ce qui est premier du côté de l'intelligence est quelque chose d'ultime, qui est la contemplation. Je mets mon intelligence au service de mon amour qui adore le Créateur, de mon amour de créature. Je mets mon intelligence au service de cet amour de créature à l'égard du Créateur pour chercher la contemplation, pour voir dans quelle mesure je peux contempler, dans quelle mesure je peux regarder et me mettre en présence de celui qui est toujours en présence. Qu'il est le créateur. Vous voyez comment la découverte de la dépendance de mon intelligence à l'égard du créateur redonne à l'homme, créature, confiance dans son intelligence. Et redonne cette confiance ultime dans l'intelligence, l'esprit est fait pour atteindre sa finalité. Et sa finalité propre. Et sa finalité propre ne peut être que la contemplation. Une contemplation qui se réalise à l'intérieur d'un amour et qui se réalise dans un amour. Et donc il y a tout le halo affectif de l'amour d'adoration qui permet l'éveil de nous contemplatifs et qui réalise l'éveil du nous contemplatif. Et qu'à ce moment-là, le nous contemplatif peut se mettre en présence de celui qui est toujours présent à nous, mais dont nous ne sommes pas toujours présents. Et donc la contemplation doit se comprendre par cette exigence d'être le plus possible en présence. Cette contemplation n'est évidemment pas un regard direct sur Dieu. C'est impossible. Elle est médiatisée par un effet. Je ne peux pas contempler le Créateur directement et immédiatement. Tant que je suis sur cette terre. Le philosophe, ce n'est pas ce qui se passe après. Hein. Le croyant le sait un peu mieux. Mais le philosophe ne le sait pas comme philosophe. Alors, il peut simplement comprendre que l'esprit est fait pour la contemplation et que cette contemplation ici sur terre est une contemplation qui est médiatisée à travers ce qu'il y a de plus parfait dans la création, je peux me tenir en présence du Créateur. Alors, qu'est-ce qui est plus parfait dans la création? Et c'est cela que je considérerai comme moyen terme pour être en présence du Créateur. Je ne peux pas le voir directement, mais je peux me tenir en sa présence. Vous voyez, c'est une contemplation de désir, une contemplation d'appel. Ce n'est pas une contemplation d'évidence. C'est le per modum causalitatis, le per modum negationis et le per modum eminentiae qui jouent pour essayer de comprendre. Ça, c'est vrai au niveau purement théologie naturelle. Il faut toujours avoir découvert l'existence de Dieu, per modum causalitatis. Il faut avoir compris que Dieu dépasse tout ce que je peux regarder directement et immédiatement, la négation, et la négation vécue dans l'adoration. Donc les limites, la négation conduit à l'adoration. Et le per modum eminentiae, c'est l'effort contemplatif. Et cet effort contemplatif consiste à regarder ce qu'il y a de plus parfait dans les créatures. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus parfait dans les créatures au niveau purement métaphysique? Vous voyez comment l'esprit peut découvrir qu'il y a en lui quelque chose de particulièrement parfait. Cette réflexion de l'esprit sur lui-même dans sa soif de vérité. Cette réflexion de l'esprit au service de l'adoration permet à l'intelligence humaine d'être toute proche de l'acte créateur de Dieu, au niveau de l'esprit. C'est une attitude réflexive à la contemplation. Vous voyez, en comprenant bien, ce n'est pas une attitude réflexive sur le sujet qui est dans une attitude, si vous voulez, de réflexion sur l'exercice de ses actes. C'est une attitude réflexive pour saisir l'acte le plus parfait, l'effet le plus parfait. Quel est l'effet le plus parfait que je peux saisir immédiatement? Ce n'est pas la substance. Autrement, je réfléchirais sur la substance. Je réfléchirais sur mon âme. Si je pouvais réfléchir directement sur mon âme spirituelle, ce serait merveilleux. Mais mon âme spirituelle, je ne l'atteins pas directement. Je ne l'atteins qu'à travers mes opérations. Donc, c'est réfléchir sur ce qu'il y a de plus parfait à l'intérieur de mes opérations. Or, quel est l'acte dernier le plus parfait? C'est l'adoration. C'est donc la transformation de l'adoration en contemplation. C'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre. Pour Aristote, c'est l'ordre du monde. Nous pouvons aller un peu plus loin. Parce que l'ordre du monde, nous le savons bien, depuis Aristote, il est un tout petit peu entamé. Je ne peux plus dire que les corps célestes sont ce qu'il y a de plus parfait. Je ne peux plus dire que c'est le mouvement uniforme, circulaire, qui est le plus parfait dans l'univers. Pour Aristote, c'est ça qui permet la contemplation. Parce que les corps célestes étaient plus parfaits que l'âme humaine. Les corps célestes en tant que vivants et réalisés dans leur mouvement uniforme. Je ne peux plus le dire. C'est là où je vois que la contemplation d'Aristote était un peu esthétique. Il y avait un petit brin d'esthétisme par rapport à l'univers. Je regardais la splendeur de l'univers, la beauté de l'univers, et à travers cette beauté de l'univers, je me disais Dieu est présent. Je vous ai dit, l'homme devient le lieu par excellence de l'univers. La cause exemplaire, c'est l'homme. Et par le fait même, ce n'est plus le mouvement circulaire qui est le métaxu, c'est l'adoration même de l'homme. C'est l'homme adorant qui lui permet de découvrir la présence la plus proche de Dieu sur lui. Et non plus le mouvement circulaire. Je crois qu'ensuite, c'est l'amour d'amitié. Vous voyez, c'est les deux points les plus profonds qui permet à l'homme de découvrir la présence de Dieu. Les deux grands métaxus qui remplacent le mouvement circulaire et qui permet le dépassement de l'homme par rapport à cette présence de Dieu auprès de lui. Cette présence d'immensité du Créateur, c'est la présence d'immensité. Hein. C'est parce que Dieu est présent immédiatement à l'homme par la création de l'âme spirituelle que l'homme peut rejoindre Dieu et être en présence de Dieu. Je continuerai peut-être demain, s'il y a d'autres questions, je continuerai demain à voir le problème de la personne humaine au niveau éthique et au niveau artistique.